Hello, bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, nous allons parler de l'anxiété. Nous allons tout d'abord commencer par quelques définitions. L'anxiété est plus apparentée à une peur diffuse, donc qui remplit nos pensées, répandue dans toutes les sphères de notre vie. Un stress permanent face à une situation ou à un environnement particulier. Elle est souvent bénigne, mais il peut exister une forme pathologique, par exemple le trouble anxieux généralisé. Celui-ci se traduit par une anxiété permanente face à l'avenir, une peur systématique de l'imprévu. Il est donc impossible pour la personne de se réjouir face à un événement positif futur, elle appréhende toujours un imprévu. Il y a également la définition de l'angoisse, donc on peut faire des crises d'angoisse ou des attaques de panique. C'est une manifestation possible des troubles anxieux, une crise d'angoisse aiguë qui apparaît de façon brutale et qui dure quelques minutes à quelques heures. La personne va ressentir une peur intense de mourir, de devenir fou, etc. Une sensation de danger immédiat et des sensations physiques désagréables. Ça peut être des palpitations, des sueurs, des tremblements et des douleurs thoraciques. On va donner également une définition de la peur. Donc, la peur est une émotion normale de l'organisme, au même titre que peuvent être la joie, la tristesse, etc. Son rôle est de nous protéger, plaçant notre corps en alerte lors de la réception d'un stimulus extérieur tel qu'un bruit ou une image. Les manifestations de la peur peuvent être très différentes d'un individu à un autre. Pour certains, elles stimulent. C'est par exemple le cas lorsqu'un artiste éprouve du trac. Mais pour d'autres, elle peut être signe de paralysie et elle peut inhiber de toute réaction. Donc je vais vous partager un petit bout de mon témoignage. Pendant plusieurs années, si ce n'est pas toute ma vie, il y a encore quelques années, j'ai été sous l'emprise de l'anxiété et de la peur. Cela a commencé par les peurs accumulées sur le chemin de la vie, un père violent verbalement et physiquement avec ma mère, et cela s'est aggravé lorsque je suis tombée moi-même sous l'emprise d'un pervers narcissique violent, à mes 19 ans. Plus jeune, j'avais instauré une sorte de carapace, donc personnellement j'ai fait des études dans le bâtiment. Bizarrement, pour une fille qui avait peur des hommes, c'est quand même marrant. Et du coup, je m'étais développé une sorte de fausse image de moi-même, c'est-à-dire que je me servais de mon nom de famille, de ma famille, pour menacer les gens qui cherchaient à me... En fait, c'était pour éloigner les gens de moi, quelque part, pour leur faire peur, et voilà. Les gens même disaient que j'avais un regard froid, et souvent, quand on ne me connaît pas, on pourrait dire que je suis mauvaise, ou que j'ai un regard hautain, enfin des choses assez... qui ne me ressemblent pas du tout, mais c'est ce qu'on pourrait dire au premier abord. Je pense qu'on le disait plus avant que maintenant. J'ai personne qui me l'a dit, si ce n'est au début de quand je suis arrivée dans l'église, on m'a dit que je faisais très sûre de moi, que je pourrais être quelqu'un d'hautain, en extérieur comme ça. Mais en fait, c'est pas du tout moi, et c'est vraiment une image que l'on pense de moi au premier abord, mais c'est pas du tout ce que je suis en réalité. En fait, c'était une sorte de carapace pour me protéger. Donc tout au long de ma vie, j'ai fait en sorte de me protéger par des tactiques. Je ne montrais pas forcément mes peurs, mais je répondais par de l'impulsivité. Et à mes 19 ans, quand je suis tombée sur l'emprise de cet homme, j'ai laissé une porte ouverte à tout ce que je refusais d'avoir dans ma vie. Donc à l'époque, j'étais pas chrétienne, mais je voulais quand même pas reproduire ce schéma familial, c'est-à-dire avoir un époux violent, parce que j'ai vu ma mère souffrir de ça, et je ne voulais absolument pas avoir comme époux un homme comme mon père. Mais c'est malheureusement ce que j'ai fait inconsciemment, quelque part, même si je pense qu'il n'y a pas de hasard, et que du coup, finalement, c'est un mal pour un bien, dans le sens où ça m'a permis de rencontrer Christ, donc voilà. Finalement, pour moi, j'ai rencontré une personne encore plus horrible que mon propre père, dans le sens où, comme mon père avait une emprise sur moi psychologique, mais n'avait jamais été vraiment violent avec moi, même si c'était de la violence psychologique, je dirais que c'était pas du tout le même. Pour moi, ça a été pire, même si pour ma mère, par exemple, mon père était quelque chose d'insupportable Et il faisait un peu toutes les violences, c'est-à-dire les violences autant psychologiques que physiques, etc. Ce que moi, j'ai vécu avec ce premier petit ami. En fait, quand je suis tombée sur cet homme-là, je ne l'ai pas vu venir comme ça, un pervers narcissique. Tout semblait au début idéal. Pour moi, c'était l'homme de ma vie. J'acceptais vraiment des choses qui m'ont détruite. Et le fait que j'avais peur au fil du temps, ça n'a fait en fait qu'aggraver les symptômes accumulés pendant mon enfance. La violence conjugale m'a enfermée dans un cercle vicieux, oscillant entre un semblant d'amour et de la peur à outrance. De là sont nées de nouvelles peurs, donc la peur de décevoir, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas savoir comment m'habiller le matin. C'était un casse-tête parce que je ne savais pas comment plaire à cette personne, comment être suffisamment bien. Et je savais que de toute façon, cette personne trouverait forcément quelque chose à redire sur tout ce que j'allais faire, en fait. Donc, j'en étais même venue à avoir peur de choisir la façon dont j'allais m'habiller, quoi. C'est vraiment incroyable. La peur qu'il regarde dans mon téléphone, même sans avoir rien à me reprocher, j'avais cette peur parce que le moindre petit truc, en fait, pouvait être déclencheur de violence. Et du coup, ça a créé une peur, d'énormes peurs. Sachant que moi j'avais déjà très peur du téléphone à la base parce que mon père avait cette emprise psychologique et en fait quand je voyais son nom s'afficher sur mon téléphone quand j'étais jeune, je faisais des crises d'angoisse rien que de voir le nom de mon père affiché sur mon téléphone. Donc j'ai toujours eu du mal à appeler les gens de ma famille et tout par téléphone, je préfère, et même encore aujourd'hui je préfère parler par SMS. La peur qu'il me frappe, la peur qu'il m'humilie, la peur d'être moi-même. La peur d'écouter des musiques que j'aimais moi. C'est quand même incroyable quand j'y repense. La peur de parler à mes cousins, ma propre famille, parce que ça pouvait être source de jalousie de sa part et donc découler de la violence. La peur d'en parler, la peur qu'il me tue. Voilà, tout simplement. En résumé, il y a quelques années de ça, la peur dictait ma vie en fait. Que ce soit depuis l'enfance et jusqu'à que j'ai 19 ans. Non. 19 ans, c'est l'âge à laquelle je l'ai rencontré, donc jusqu'à que j'ai 24 ans. Enfin bon, bref, ça n'a pas d'importance, mais en gros, je suis restée 5 ans dans ce système-là. Au bout de quelques mois dans cette relation toxique, j'ai rencontré le Seigneur. Je ne saurais pas vraiment comment expliquer, si ce n'est qu'un jour, je me suis réveillée et en fait, Dieu m'a dit, va à la maison de la Bible et achète une Bible rose. ce que j'ai fait. Mais il a fallu quand même, quand j'ai rencontré le Seigneur, il m'a fallu quand même 2 ans pour ouvrir les yeux. Et après de multiples essais, j'ai pu le quitter qu'au bout de 5 ans, sans jamais retourner en arrière. Parce que dans les violences conjugales, il y a cette chose qui fait que malgré toi, tu vas retourner. Tu vas essayer de partir, mais tu vas y retourner malheureusement parce qu'en fait, cette personne a fait en sorte que ta vie soit conditionnée par cette personne-là et que tout tourne autour de cette personne-là. Et en fait, quand tu vas partir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir parce que finalement, tu n'as plus rien d'autre que cette personne-là. Donc, ce qui m'a sauvée, la parole de Dieu. J'étais seule et isolée dans cette relation. Je n'avais plus d'amis car pas assez bien pour lui. Il trouvait toujours quelque chose à dire et je n'arrivais pas à en parler à ma famille. Je me sentais incomprise et personne ne pouvait m'apporter de solution. Je le dis aujourd'hui, j'étais idolâtre de sa personne. Ma vie entière était tournée autour de lui. Dieu m'a permis d'oser en parler, de rencontrer les personnes nécessaires à me faire ouvrir les yeux et à travers la Bible m'a accompagnée dans ce chemin de restauration. Je suis convaincue que c'est son Saint-Esprit qui m'a toujours tout révélé afin que je voie, que je sache et que j'essaie de m'échapper. J'ai eu des signes dès le début malheureusement, mais j'avais un voile sur les yeux. Je pensais que c'était normal de tout donner pour la personne que l'on aime, normal de se faire frapper si quelqu'un me dit que je suis jolie, parce que ça ne se fait pas. C'est horrible de dire ça aujourd'hui, mais voilà, c'est ce que j'ai cru pendant un long moment, donc voilà, pour moi ça a été vérité, c'est ce que j'ai cru. Est-ce que l'ennemi m'a fait croire, est-ce que la vie m'a fait croire, ce que j'ai vu enfant, en fait, quelque part, ça a fait une sorte de fissure en moi qui a permis que tout ça s'immisce parce que j'étais déjà préconditionnée, en fait, à ça, aux violences conjugales. Donc, ça a été un processus très long pour ouvrir les yeux, mais aussi un processus très long de restauration et de guérison que Dieu a opéré et qu'il a commencé à opérer même quand j'étais encore dans cette relation toxique. C'est-à-dire que j'ai rencontré le Seigneur et que il m'a restauré progressivement et m'a aidé à ce que je puisse m'en sortir petit à petit. Tout ne s'est pas fait d'un coup. Je ne suis pas partie du jour au lendemain. Je sais que pour certaines personnes victimes de violences, c'est possible. Ma mère, quand elle a pris sa décision, elle est partie. Moi, il m'a fallu plusieurs allers-retours. Voilà. Une fois que Dieu a entamé ce processus de guérison, il m'a délivré par la même occasion des angoisses. Et c'est ça qui m'a permis, en fait, en quelque sorte, de le quitter. Parce qu'en fait, auparavant, je suis passée par une douleur, en fait, de deuil. Je devais faire un deuil de cette relation-là. Et en fait, ça me donnait d'énormes crises d'angoisse. C'est-à-dire que je préférais être avec mon bourreau que de souffrir physiquement de ces crises qui m'oppressaient. Ça me faisait tellement mal physiquement que limite, je préférais être avec lui que de souffrir en moi-même. C'est horrible à dire. Mais voilà. Pendant cette relation, j'ai commencé à fréquenter plusieurs églises, mais bon, là, c'était toujours les mêmes problèmes. Dès que je rentrais, c'était pour me dire que finalement, j'étais partie voir des hommes. Bref, ça, c'est pas très grave. C'est le principe d'un homme violent, jaloux, enfin bref. Donc, suite à ça, donc, j'ai été dans plusieurs églises jusqu'à ce que je trouve une église où je me sente suffisamment bien. Sachant que je priais pour que Dieu m'oriente vers une église où, où il voulait que je sois. Suite à ça, j'ai suivi des cours dans cette église et j'ai participé à une sorte de séminaire, un atelier, je ne sais pas comment expliquer, qui durait sur plusieurs semaines, une ou deux semaines, ou un week-end, je ne me rappelle plus. Une ou deux semaines ? Une semaine ? Non, je ne me rappelle plus, franchement, désolée, je ne me rappelle pas. Et c'est lors de ce séminaire-là, qui s'appelait « Vivre libre en Christ », que j'ai été délivrée des angoisses. Et je pense que c'est ça qui a permis que je le quitte définitivement, clairement. Suite à ça, je crois que c'est quelques temps avant que je prenne mon baptême, hein, que j'ai été délivrée, c'est-à-dire que je pense que j'ai été délivrée en début mars ou février, quoi, et que j'ai pris mon baptême en mars, donc voilà. Donc suite à ça, je me suis fait baptiser et il y a plusieurs choses qui m'ont permis de ne pas faire de retour en arrière. Donc notamment le fait que j'ai une église et donc que j'ai pu en parler et donc que j'ai pu être soutenue. Donc je n'étais plus seule. À côté, j'avais plusieurs suivis, j'avais des éducatrices, des psychologues qui ont d'ailleurs toujours respecté mes croyances sans jamais me juger. Quand j'en ai parlé, il y avait quand même ma famille dans le sens où surtout ma maman était là. Même si elle s'est longtemps sentie impuissante parce que quand j'en ai parlé, bah elle pouvait rien faire. J'étais sous emprise et voilà, comme je l'ai dit, j'avais un voile sur la tête. Donc clairement, elle pouvait rien faire pour moi. Même si elle l'aurait voulu, elle n'aurait pas pu. Y avait encore une amie qui est restée, qui s'appelle Manon, et qui m'a jamais abandonnée malgré mon comportement sous emprise. C'est-à-dire que sous emprise, finalement, je ne lui parlais plus vraiment. Enfin, il y avait plein de choses, en fait. Et puis, j'ai retourné tout le temps alors que je me plaignais. D'ailleurs, à un moment donné, j'ai carrément arrêté de me plaindre parce que j'ai bien compris qu'elle ne pouvait pas forcément comprendre ce que je vivais. Et voilà. Mais surtout, ce qui m'a aidée, c'est mon Dieu et sa parole. C'est d'où l'importance pour moi de lire sa Bible. C'est les versets qui m'ont fortifiée, qui m'ont montré clairement ce que Dieu voulait pour moi, pour ma vie. Et que ce n'était pas des plans de malheur, mais des plans de bonheur qu'il voulait pour moi. Mais aussi la définition de l'amour que l'on peut lire en Corinthiens. C'est surtout grâce à ce verset que j'ai pu voir combien ma relation était malsaine, en fait. Quand j'ai comparé ce que Dieu disait de l'amour, même s'il parle de l'amour de Dieu en soi, je me suis dit, en fait, il y a un grand fossé entre ce que Dieu attend de l'amour et ce qu'il dit de l'amour, et ce que moi je vis dans ma vie. Quand on dit l'amour est patient, il n'y a pas de patience dans les violences. Quand on dit l'amour n'est pas envieux, l'amour... ben non, il n'y avait pas tout ça, en fait. Je vivais le contraire de ce qu'il disait, donc je me suis dit, mince, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, c'est toxique. Quand Dieu dit l'amour ne fait rien de malhonnête, ben là, ce n'est pas du tout ce que je vivais, quoi. Donc je me suis dit, mince, quand je comparais ma vie et cette vie-là, je me suis dit, mince, c'est un truc qui va pas, en fait. Et je pense que ça a participé aussi au fait que j'ouvre les yeux. Bon, voilà. Ceci, c'est qu'un résumé, et ça ne pourra jamais vraiment être représentatif de tout ce que j'ai vécu durant ces années. qui ont engendré de la dépression, des pensées suicidaires, un mal-être profond. J'ai dû réapprendre qui j'étais, ce que j'aimais, ce qui me plaisait de faire. Et suite à ça, j'étais enfin libre de penser et de vivre ma vie. Voilà. Donc voilà. Et de là, en fait, avait découlé donc des crises d'anxiété. Donc, je pense que effectivement, nos souffrances passées, même durant l'enfance, créent en nous des blessures. Notamment, personnellement, je pense que j'avais cette blessure de l'abandon. D'ailleurs, quand j'étais petite, Rox et Rocky, ça me faisait pleurer à chaque fois que je regardais ce dessin animé. Parce que j'avais peur, sûrement, de l'abandon, qui finalement était omniprésent depuis que j'étais bébé, puisque j'ai grandi sans père, à proprement parler. Je n'avais pas de repères masculins à ma vie, quoi. J'avais mon grand-père, mais enfin, voilà, c'est pas pareil qu'un père, c'est un grand-père. C'est pas la même position. Et le seul qui a su me donner l'amour, en fait, dont j'avais besoin sans rien espérer en retour, c'est celui dont je vais vous parler aujourd'hui. On l'appelle Elohim, El Eloé, El Shaddai, Adonai, Yahweh. Dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs noms pour désigner Dieu. On nous le fait connaître sous le nom bien doux pour le cœur et qui nous fait pénétrer dans sa nature morale, dans ses affections. Ce nom est celui de Père. C'est en lui que j'ai appris ma valeur, c'est en lui que j'ai appris ce qu'était l'amour, l'amour véritable. Pas celui qui n'est là que par intérêt, celui qui vous aime sans condition dans vos bons et vos mauvais moments, celui qui vous aime dès votre naissance et ce jusqu'à la fin de vos jours. Dieu est amour et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, j'en ai la certitude que même si tous les hommes venaient à m'abandonner, hommes avec un grand H, que ce soit des femmes ou des hommes, hommes comme humanité, Dieu, lui, ne lâcherait jamais ma main. Voilà, donc Dieu nous aime tellement. Et d'ailleurs, Jean 3,16 nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cet épisode prend fin. On se retrouve pour un épisode 2 sur l'anxiété prochainement. Que Dieu vous bénisse.